Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans On the Verge, un podcast qui parle de sexualité au masculin. Pour ce 19e épisode, c'est avec Jérôme que vous allez passer un moment. Jérôme est en couple depuis 12 ans avec son premier amour. Il parlera sans tabou de leur libido, de la complexité d'accorder son désir avec l'être aimé, des échappatoires crescendo qu'il a su trouver au fil des années et de leur récent accord. C'est un véritable cadeau que fait Jérôme de livrer avec autant de sincérité son introspection. En fin d'entretien, nous allons parler avec Jérôme d'un sujet non abordé jusqu'à ce jour dans On the Verge. Même si sa réflexion est encore en cours, je suis ravie qu'il ait pu s'exprimer dessus. J'espère de tout cœur que vous allez ouvrir vos yeux, vos esprits et vos cœurs à ce témoignage. Je vous souhaite une excellente écoute. À très bientôt. Salut Jérôme.
Salut Anne-Laure.
Comment vas-tu?
Ben, ça va très bien, toi.
Ouais, ça va. Jérôme, je crois que tu es le premier invité de On the Verge. Alors, toujours enregistré à distance, parce que même si on est en déconfinement, on reste quand même prudent avec les déplacements. Oui. Et puis, tu es à bien plus de 100 km de moi, puisque tu es en Belgique.
Absolument. Donc, bon, au final, ça m'arrange bien.
Donc, voilà. Du coup, Jérôme, tu as 31 ans et je vais te poser la toute première question que je pose à tous mes invités. Jérôme, quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité?
Alors, mon tout premier souvenir, je devais avoir 7-8 ans et j'étais dans ma chambre avec un ami à moi. Et voilà, je ne sais pas comment on en est arrivé à ça, mais on jouait. J'allais cacher un objet dans la pièce. Et il devait le retrouver, et s'il le retrouvait, j'enlevais un vêtement.
Et le strip poker, en fait.
En gros, c'est ça. Mais le strip cache-cache, je n'en sais rien.
C'est très mignon, ça. Le strip voilà. Cache-cache.
Et au final, au moment où j'ai dû enlever mon slip, j'ai eu une érection. Et tous les deux, en fait, on ne savait pas ce que c'était. Donc on s'est demandé, tiens, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant, etc. Et moi, tout ce que je sentais, c'était bon, ouais. C'était agréable, j'étais dans une situation excitante, donc avec le recul, j'ai compris pourquoi, évidemment, mais sur le moment, ben voilà, c'était ma première prise de conscience.
Tu étais prépubère à ce moment-là?
Oui.
Et donc, à partir de là, comment ça a évolué? Est-ce que tu as posé des questions en famille? Est-ce que tu as pu avoir quelques réponses à tes questions?
Non, pas vraiment. Dans ma famille, on n'était pas fermé, mais allez, c'est quand même le sexe est quand même un sujet très intime, donc je sentais bien qu'il fallait que chacun garde ça pour soi. Donc
oui, tu dis pas tabou, tu dis intime.
Non, oui. Mm-hmm. Si j'avais posé des questions, je pense qu'on m'aurait répondu, mais de toute façon, bon, j'étais aussi timide et réservé, donc du coup, je n'avais pas l'envie de poser ces questions-là.
D'accord. Et comment tu t'es informé justement?
Eh bien, écoute, je n'en sais rien. À mon avis, ça doit être en discutant avec des amis, en grandissant, simplement.
Pas à l'école?
Je ne pense pas, non.
Ok. Non. Comment s'est passé, justement, après ta puberté?
Bah écoute, j'ai eu, à 12 ans, en fait, j'ai eu ma première petite copine.
D'accord. Donc, t'es au collège à ce moment-là?
C'est ça. Donc, en fait, en Belgique, on n'a pas de séparation entre le lycée et le collège. C'est une seule école.
D'accord.
Sur les 6 années de secondaire. Et donc, du coup, j'allais passer du primaire au secondaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu donc, ma première petite copine. Mm-hmm. Et malheureusement, comme on allait dans 2 écoles différentes, bon, ben, loin des yeux, loin du cœur.
Surtout donc, à ces voilà. âges-là, oui.
Exactement, oui. Donc voilà, et puis ben, pendant les quelques premières années à l'école secondaire, bon, ben, j'ai eu quelques petites amies comme ça. À chaque fois, en fait, c'était des amis à moi. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, bah, on avait une... on passait un peu plus de temps ensemble, on discutait plus, etc. Et puis ça finissait par évoluer en « veux-tu sortir avec moi ?» Oui, ok. Et puis voilà, c'était parti, quoi.
Et comment tu le... Est-ce que tu... Alors, c'est compliqué parce qu'à cet âge-là, évidemment, tu... j'imagine que tu vis les choses parce que au collège, c'est comme ça que ça se passe. Mais avec ces jeunes filles, comment ça se passait? Tu sentais un peu les premiers émois que tu avais pu retrouver avec ton copain de strip cache-cache? Ou, j'adore. Ou ça restait un peu plus conventionnel pour faire comme les copains?
Oui, c'est... Disons que... Bah, en fait, des copains, j'en avais pas. C'était surtout des copines, en fait. Je me sentais beaucoup mieux entouré de filles. Donc, du coup... il n'y avait pas de discussion, comparaison, etc. Avec les garçons. Mais alors, non, ça n'avait absolument rien à voir avec ce que j'avais vécu auparavant. Parce qu'ici, ça restait très, ben voilà, des bisous sur la bouche.
Oui, ça reste chaste, ouais. Oui, à ces
en
âges-là.
Gros, c'est ça, ça restait chaste. Okay. Jusqu'à mes 14-15 ans, où là, j'ai eu une petite copine qui, elle, était très sexuelle. Je vais dire ça comme ça parce que bon ben voilà, quand on avait une récréation ou une pause déjeuner, on était tous assis à table, on jouait aux cartes, etc. Et elle, de but en blanc, comme ça, sans raison, elle disait « Ah, j'ai envie de baiser ».
Oh là.
Voilà, donc ben voilà, quand tu entres dans la puberté, c'est quand même quelque chose d'assez perturbant, d'intrigant. Et puis, c'était une amie avec qui je m'entendais bien, avec qui je me suis entendu de mieux en mieux. Et puis finalement, bah, on est sortis ensemble.
D'accord.
Et donc, avec elle, j'ai découvert la masturbation mutuelle.
D'accord. C'est elle qui t'a fait prendre conscience de ton corps, de tes organes génitaux, de tout ce que tu peux faire avec?
Ça, j'en avais quand même un peu conscience avant parce que entre-temps, j'ai quand même découvert le porno.
Ah voilà, donc là, elle, t'as 14-15 ans. Et à quel âge tu découvres le porno? Parce que t'as 31, donc tu fais partie de cette génération, oui, où Internet est à la maison, mais c'est pas encore comme aujourd'hui où on a les téléphones très jeunes, etc. Donc comment tu arrives à avoir accès à tout ça?
Alors, en fait, mon père était fan de technologie, donc il a eu rapidement un ordinateur, un ordinateur portable, etc. Et après, enfin, mes parents ont divorcé, donc lui, il est parti, mais il avait laissé son ordinateur portable chez ma mère. Et c'était l'époque où, pour aller sur Internet, tu devais encore te brancher sur la prise téléphone, là, tu sais.
Avec le bruit du modem.
C'est ça, que ça prenait 1 minute 30 pour se connecter à Internet. T'avais l'impression d'avoir des aliens qui discutaient. Enfin, c'était une autre époque. Et donc, c'est comme ça que j'ai su aller sur Internet. Et donc, j'ai découvert différentes choses.
Alors, qu'est-ce que tu as cherché? Est-ce que tu te rappelles, si on fait un petit plongeon en arrière, est-ce que tu te rappelles ce que tu as cherché la première fois que tu as eu ce champ des possibles qu'est Internet? Qu'est-ce que tu es allé assouvir comme curiosité?
Franchement, j'en sais rien. À mon avis, j'ai dû taper quelque chose genre sexe et puis image, tu vois, ou un truc comme ça. Franchement, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Mais ce que je sais, c'est que bon, ben voilà, au début, je regardais du porno un peu classique. Et puis un jour, je suis tombée sur un site où il n'y avait que des hommes.
Ok.
Et donc là, c'est quelque chose qui m'a vraiment intriguée. Parce que, je veux dire, c'était une époque où on ne parlait pas d'homosexualité, et donc au final, c'était pas quelque chose que j'envisageais dans ma tête, quoi.
On parlait pas d'homosexualité parce que c'était un non-dit, parce que c'était pas... Oui, je veux dire, il y avait pas de problématique autour de l'homosexualité chez toi, mais c'est parce qu'on n'en parlait pas, tout simplement.
Non, c'est ça. Je vais dire, on n'avait pas d'homosexuels autour de nous. À la télé, il n'y avait pas la visibilité qu'on a maintenant.
Que vous croyiez ne pas avoir.
Oui, évidemment. Évidemment, qu'on croyait ne pas avoir. C'est une bonne précision.
OK.
Donc voilà, là, c'était une vraie découverte à ce niveau-là. Et avec le temps, ça me restait de plus en plus en tête quand même. Et je me disais, bon, il y a vraiment quelque chose. Au début, c'était de la curiosité. Et puis finalement, je commençais plus à aller rechercher ce côté-là. Et à ce moment-là, bon, bah, j'ai commencé à me poser des questions. Tiens, jusqu'à présent, bon, bah, j'ai eu des petites copines, mais en fait, qu'est-ce qui se passerait finalement si j'étais avec un garçon, quoi?
D'accord, donc là, c'est quand tu es adolescent que l'idée commence
Oui,
à germer. Et
c'est ça.
comment tu te sens par rapport à ça?
Ça, franchement, rien de spécial. C'est une idée comme une autre,
C'était, voilà, c'était une
voilà. Je
info.
constate que je grandis, ben voilà, je constate dans ma tête que tiens, j'aime peut-être des choses différentes.
Et le rapport à la masturbation à cet âge-là, il se passe comment?
Ça se passe très bien.
La
Ben,
santé.
disons que voilà, c'est ça. Je pense que j'ai commencé à me masturber vers 12 ans.
D'accord.
Et
Donc vraiment prépubère.
bon, oui. Et
OK.
puis bon, bah ça, voilà, ça se passait assez souvent quand même. Et bah voilà, quand je pouvais avoir un support visuel, parce qu'il n'y avait personne chez moi et que je pouvais sortir l'ordinateur, j'allais voir du porno, mais sinon, je me servais de mon imagination, quoi.
Et c'était du porno homo?
Au départ, non.
Mmh.
Puis après, ça l'est devenu.
D'accord. Ok.
Voilà.
Donc là,
Ouais.
tu continues ton secondaire, tu as 15, 16 ans. Tu vas coucher avec ta petite amie?
Alors non, en fait, donc on s'est masturbé l'un l'autre. En général, c'était un jour c'était pour l'un, un jour c'était pour l'autre.
Donnant, donnant.
Voilà, exactement. Je dis ça, mais en même temps, on n'a pas eu beaucoup d'occasions non plus. Je veux dire,
Mmh.
c'était quand on était soit chez l'un, soit chez l'autre, et que
Oui, à ces
voilà, il n'y
époques-là,
avait pas
avec
tout.
les
Voilà, c'est
parents,
ça.
le planning, oui, c'est compliqué.
Oui. Mais il y a un jour où, disons, les conditions étaient réunies pour, voilà, on aurait pu essayer la première pénétration. Et là, elle a vraiment freiné des cas de fer.
Mmh.
Ce que je n'ai pas compris au début, puisque, étant donné qu'elle donnait en permanence cette image de, j'ai
De
envie de faire
fille à l'aise
l'amour,
avec ça,
voilà,
oui.
c'est ça, exactement. Voilà, j'ai été fort étonné. Donc finalement, on n'a rien fait. Et au final, je pense que c'était pas plus mal, parce que bon, j'avais quand même 14 ans en ce moment-là. Je
Mmh.
pense que c'était un peu tôt.
En tout
Je
cas, vous
suis...
n'étiez pas prêt.
Voilà. Non, je pense pas, non.
D'accord.
Et donc du coup, bon, voilà. Mais un jour, donc c'était mon tour. Donc c'était elle qui me masturbait. Et j'ai éjaculé. Donc c'était la première fois qu'un de nous deux avait un orgasme.
D'accord.
Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'avait...
Qu'est-ce qui n'allait pas?
Qui... Voilà, c'est ça, qu'est-ce qui n'allait pas? Ça n'a rien changé, mais disons que c'était le fait de l'avoir fait avec elle,
D'accord,
où je
c'était
me dis,
le ressenti.
voilà,
D'accord, j'entends.
c'est ça, oui. Et je me dis, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et bon, j'ai pas eu besoin de réfléchir beaucoup, quoi. Donc, je veux dire, je suis revenu à mes explorations sur Internet, et je me suis dit, finalement, les filles, c'est peut-être ça qui pose
C'est
problème. Je
peut-être
veux
le
dire, je
facteur qui
pensais que ça
fait que ça ne va pas.
m'intéressait, mais voilà, c'est ça. Et donc, je me dis, finalement, peut-être que les filles, c'est pas pour moi, et ce serait plus les garçons. Et en fait, ça s'est fait naturellement. En fait, j'ai accepté très rapidement et en douceur le fait que finalement, moi, c'était pas les filles, c'était les garçons.
D'accord.
Évidemment, je ne lui ai pas dit, mais bon, on n'est quand même pas restés ensemble après ça. Enfin, très rapidement, je vais dire, j'étais quand même en pleine réflexion, et là, elle s'est bien rendue compte qu'il y avait quelque chose qui me trottait dans la tête. Et bon, rapidement, on a dit, enfin, j'ai dit, on arrête.
Mmh.
Et voilà. Et puis après ça, j'ai encore essayé avec une fille, et je me suis bien rendu compte que non, c'était pas possible,
Tu
quoi.
en as parlé à ton entourage? À tes copines d'école, à tes amis, à ta famille?
En fait, juste après avoir rompu avec ma dernière copine, j'avais envoyé un SMS à ma meilleure amie de l'époque. Et je lui avais dit, si je fais la liste de toutes les personnes avec qui j'ai envie de sortir, il n'y a que des garçons dessus. Et elle m'avait répondu, t'inquiète pas, on en parle demain. Et puis le lendemain à l'école, ça ne s'était pas mis, et en fait, on n'en a jamais parlé. Et oui, et c'est dommage, parce que sur le moment, j'en aurais bien eu besoin. Mais bon, voilà, on n'en a pas parlé. Et puis, simplement, au fil du temps, trouver d'autres personnes à qui parler. J'en ai parlé avec elle aussi, mais
Oui.
on n'a pas eu la grosse discussion que j'attendais au début.
Tu penses
En tout cas, à
elle
ce
t'aurait fait
niveau-là.
du bien cette discussion?
Oui, sans doute. Sans doute parce que, bah, voilà, jusqu'à présent, c'était vraiment uniquement des réflexions perso. J'avais vraiment impliqué personne. Et puis bon, bah, c'est quand même. Comment dire? On se rend compte que finalement, on va emprunter un chemin qui n'est pas celui que tout le monde attend qu'on emprunte. Et donc, c'est quand même
Oui, être
un moment qui n'est
accompagné.
pas facile.
Oui,
Et
bien
donc,
sûr.
voilà, être avec quelqu'un, ce serait plus facile,
Je
quoi.
pense en effet que les amis et l'entourage peuvent contribuer et même changer la direction que va prendre un coming out ou en tout cas
Oui.
une réflexion. Et c'est vrai que c'est chouette quand on est bien entouré sur ce sujet.
Oui.
Ok, donc là tu arrives quasiment à ta majorité.
Donc, en fait, au moment où j'accepte vraiment mon homosexualité, j'avais 15 ans.
D'accord.
Et c'est un peu là que s'est trouvé le problème, en fait, puisque à l'époque, j'étais donc dans une petite école catho. Il y avait moins de 400 élèves, donc collège et lycée rassemblés. Donc tous les profs nous connaissaient tous par nos prénoms. Dès qu'il y avait quelque chose qui se passait, tout le monde était au courant. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de cacher parce que je voulais simplement pas être stigmatisé pour une raison ou pour une autre. Notamment le fait, bon ben, de devoir me trouver dans la même douche que les autres garçons après les cours de sport. Ce genre de choses qui m'a toujours quand même posé pas mal de problèmes parce que ben voilà, je voulais pas risquer de montrer mon intérêt aux autres.
Je comprends.
Mais au final, voilà, rien ne s'est présenté. Mais pendant 3 ans, donc de 15 à 18 ans, je suis vraiment resté tout seul. J'avais juste ben, mes amis avec qui en parler. Mais à nouveau, autour de moi, j'avais pas d'homosexuel assumé, donc j'ai pas pu parler avec qui que ce soit et donc je me sentais fort seul au monde en fait.
Parce que statistiquement, il y avait forcément des homos dans ton école.
Absolument, tout
Mais
à fait. Mais
c'est
bon,
dingue.
voilà, si tout le monde pensait comme moi, bon ben forcément on
Bien
était
sûr.
tous dans notre coin à ne rien dire
J'espère que ça
et
changera, ça, avec le
effectivement.
temps. Vraiment.
Ben j'espère aussi, j'espère aussi.
Quelle solitude et surtout quel faux. Pas faux problème, mais en tout cas, ça pourrait tellement être simple et fluide et que tout se passe. En bonne intelligence, c'est fou
Tout à
cette
fait.
douleur qu'on peut ressentir en étant seul, alors que finalement le voisin. Bref, c'est tout
C'est
un
ça,
autre sujet.
exactement.
Ok, donc à ce moment-là, donc tu caches ton homosexualité. Et jusqu'à quand?
Ben, jusqu'au moment où finalement ben, le secondaire s'est terminé, donc je passe à l'université, où là j'ai vraiment eu un sentiment de libération. Parce que bon, ben voilà, t'arrives, t'es dans une classe où il y a 200 élèves, donc quand t'arrives aux examens de fin d'année, il y a même des gens, tu connais pas leur tête.
Oui, tu ne les avais jamais
Donc,
vus.
c'est ça, donc tu sais bien que, ben voilà, déjà tu peux le dire, en général, il y a quand même une meilleure ouverture
Oui,
d'esprit
y a un
passé à
gap
un
qui est
certain
passé.
stade, c'est ça. Et puis, ben, au final, si ça pose problème à quelqu'un, ben, on se côtoie pas, et puis point barre, quoi. Et donc, à ce moment-là, ça ne pose pas de problème. Ça n'a jamais posé de problème avec personne.
Tu es parti de chez toi à ce moment-là?
Non, non,
Non,
non,
tu es
je suis
resté
resté
chez
chez
toi.
moi.
D'accord.
Oui.
Ok. Mais ça, tu n'avais toujours pas parlé de ton homosexualité à tes parents?
J'en avais parlé avec ma mère. Elle a été au courant assez rapidement. Mais avec les autres membres de ma famille, non. Je me suis dit, je vais attendre d'avoir quelqu'un avant
De leur
de commencer à
présenter.
en parler pour avoir du soutien derrière, quoi.
D'accord. Ok, je comprends. Et tu as des frères et sœurs?
J'ai une petite sœur.
D'accord. Donc tu es à l'université, ça y est, tu
Oui.
décides de vivre ton homosexualité de façon plus évidente. Comment ça se
Oui,
passe alors?
absolument. Ben,
Tu fais des
au début, je
rencontres?
sais pas. Ben, en fait, au début, je ne sais pas quoi faire, en fait, simplement, puisque ben, quelques mois après la rentrée, il y a mon beau-père et ma mère qui étaient partis dîner quelque part, et en revenant, il me tend un flyer, et il me dit, tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Ça peut peut-être t'intéresser, je ne te pousse pas, mais. Et je regarde, et en fait, c'était une publicité pour un cercle d'étudiants homosexuels.
Oh.
de Liège, donc de la ville où j'habite. Et donc je me dis, bah, en fait, oui, ce serait absolument l'idéal. Donc il m'a fallu 2-3 semaines pour prendre mon courage à deux mains quand même. Et puis finalement, j'y suis allé. Et donc bah, là, c'est un autre monde qui s'est ouvert, évidemment, puisque j'ai vu en une seule soirée plus d'homosexuels que pendant les 18 années que j'avais vécu jusqu'avant.
Oh là là.
Jusqu'à présent, pardon. Donc voilà, c'était... Oui, ça changeait vraiment, vraiment tout.
Ça a dû être très important pour toi et très symbolique, d'ailleurs.
Oui, absolument. Là, j'ai vraiment senti que je faisais partie de quelque chose. Tu vois, alors que jusqu'à présent, voilà.
Et donc, quels étaient les sujets de discussion pendant que vous vous retrouviez à ce cercle ?
Franchement, c'était principalement la pluie et le beau temps, parce qu'on parlait de rien de spécial, en fait.
Oui, c'était
juste. Pas comme si on parlait pas de notre homosexualité en permanence, c'est juste qu'on savait que ce critère-là était commun à tous. Et que donc, du coup, voilà, on venait comme on était et on était tous acceptés pareil, puisqu'on était tous pareils, mais sinon, au final, on discutait de choses et d'autres.
Est-ce qu'il y avait des discussions de prévention, de choses comme ça, ou c'était vraiment du small talking où on raconte un peu sa journée, mais on est ensemble ?
En fait, il y avait des possibilités parce que les réunions, donc c'était une fois par semaine et ça se faisait dans un planning familial. Qui étaient là donc la journée, donc eux ils en faisaient en permanence de la prévention, ouais, ce genre de trucs, donc tout était encore là. Bah, je me souviens, oui, à l'entrée il y avait des bols remplis de préservatifs par exemple, donc
à la belle époque,
on nous disait servez-vous, voilà. Voilà.
Ok, très bien. Donc tu fais ce cercle, enfin tu vas, oui, à ces réunions avec c'est terrible parce qu'on dit avec des gens comme toi, mais c'est ça veut dire, oui, qu'on fait une distinction et je trouve que c'est triste.
Absolument.
Hein. C'est
absolument.
Et pourtant on parle de ça, c'était donc t'as quoi, t'as 18 ans, donc
c'était en 2007.
C'est fou. Donc dans les années 2000, ouais. Oh là là, juste avant les années 2010, ça fait peur quand même, hein. C'était il y a 15 ans,
c'est
à
ça,
peine.
Waouh. Ouais, ouais.
Oh, wow. Pourtant, après, j'avais le sentiment que les villes belges étaient assez progressistes.
Mais je ne dis pas le contraire, mais c'est juste qu'avant, je crois que c'était juste mon environnement scolaire en fait, qui faisait que j'étais très repliée sur moi-même. Et je ne cherchais pas, je pense effectivement que ça pouvait poser moins de problèmes là qu'ailleurs. Mais voilà, je ne cherchais pas non plus à cette époque-là. Et bon, ben voilà, grâce au cercle, ben j'ai pu me faire des amis et me sentir, voilà, accepté au sein d'un groupe pour quelque chose que je cachais auparavant, quoi.
Donc là, t'es majeur à ce moment-là ?
Oui,
et absolument. Que se passe-t-il ?
Alors, après quelques semaines de réunion là-bas, un jour, je m'en souviens très bien, c'était une soirée crêpes. Moi, je n'aimais pas ça, donc ouais, c'est ça. Mais je n'aime pas les crêpes, donc c'est moi qui les cuisais en fait pour tout le monde. Donc, ça allait très bien comme ça. Et à un moment donné, rentre dans la salle un garçon et une fille d'une vingtaine d'années qui venaient pour la première fois. Et le garçon m'avait quand même vraiment tapé dans l'œil. Je le trouvais vraiment très séduisant et bon, voilà, très intéressant, quoi. Et donc très rapidement on a eu l'occasion de sympathiser, de discuter, et puis j'ai vu que moi non plus je le laissais pas indifférent, donc
c'était la première fois que tu séduisais un garçon.
Absolument. Et que quelqu'un venait me draguer, en fait. C'était la première fois. Et je vais dire, on a parlé pendant quelques semaines. C'était l'époque de MSN Messenger.
Bien sûr.
Voilà.
Avec des petits widgets.
Exactement. Le crime contre l'humanité.
Tout à fait.
Mais voilà. Mais donc du coup, oui, ça reste quand même un bon souvenir, Messenger.
Bien sûr. Oui, oui.
Et donc voilà, et après quelques semaines, après une des réunions, on était resté boire un verre, il était trop tard, j'avais raté mon bus, il m'a dit c'est pas grave, je vais te reconduire. Et bon, une fois qu'on est arrivé à sa voiture, j'ai ouvert la portière arrière je suis rentré directement sur la banquette arrière et je l'ai attrapé et on s'est embrassé. Wow. Pour la première fois.
C'est presque cinématographique là, hein, ce premier baiser.
Exact, mais absolument. Très, absolument. Très
chouette. Et, ouais. Et donc, il se laisse embrasser.
Oui.
Et
voilà, on avait bien compris tous les deux qu'on était sur la même longueur d'onde, donc, mm-hmm. Donc voilà. Oui.
Et ce garçon, c'est la première fois que tu embrasses un garçon, c'est la première fois,
oui,
que tu,
absolument,
vas toucher un autre corps d'homme que le tien, c'est la, mm-hmm, première fois qu'il y a tous ces, entre guillemets, ces rapports vraiment charnels. Comment ça, mm-hmm, se passe? Est-ce que tu as un souvenir à ce moment-là de sensations qui te revient?
Pas vraiment. Enfin, on a passé 2 heures à s'embrasser, quoi, je pense. 1 heure sur,
wow,
le parking, et puis une fois qu'il m'a ramené chez moi, finalement, on est allé dans un endroit plus calme où il n'y avait personne, et on s'est encore embrassé pendant 1 heure.
Oh, t'avais la lèvre gercée à la fin, je suis sûre.
Oui. Mais c'est pas grave, c'était pour rattraper,
ah oui,
les 18 années qui précédaient. Donc,
j'imagine. Et voilà. Donc, ce garçon rentre dans ta vie.
Absolument.
Et
il n'en est jamais sorti.
Je le savais, mais j'avais envie que tu le dises. Et donc, oui, ça va faire maintenant fort longtemps que
bientôt
vous êtes ensemble.
13 ans, oui, effectivement. On est mariés depuis 5 ans. Et oui, ça a toujours donc été mon premier amour.
Donc, c'est ton premier amour. C'est donc
oui,
beaucoup de premières fois pour toi.
En effet, oui.
Lui avait déjà eu des relations?
Il avait eu un copain avant moi. Et je dois dire que ça a quand même fait une grosse différence dans ma tête par la suite. Parce que, bon, entre 2 et 3, il y a 1 de différence. Entre 0 et 1, il y a 1 de différence aussi, mais c'est quand même pas la même différence. Tu vois
c'est
ce que
ça,
je veux,
exactement,
dire?
Exactement, tu parles du niveau 0 et c'est vrai que,
exactement,
ça fait une différence,
donc,
bien sûr.
Voilà, j'étais vraiment sans point de comparaison. Effectivement, je n'avais que lui comme point de comparaison avec moi, quoi.
Bien sûr. Alors, sans dévoiler évidemment l'intimité qui vous appartient, comment se passent, mm-hmm, vos premières fois? Comment se passe le sexe avec un homme? Est-ce que tu ressens enfin la validation de ton corps et de ton esprit en symbiose après l'orgasme, après les relations intimes?
Oui, absolument. Là, il y a vraiment eu aucun souci avec ça.
Mmh.
Notre première fois, c'était, je dirais, un mois à peu près après notre premier baiser.
Mmh.
C'était la fin des examens, donc on était crevés, on avait juste envie de passer du temps ensemble, etc. Et puis, ça tombait bien, tout le monde chez moi devait partir et laisser la maison vide, donc je me suis dit, tant qu'à faire, viens dormir à la maison ce soir.
Mmh.
Et voilà, je m'en souviens très bien parce que, donc après le dîner, on avait regardé un spectacle de Michel Leeb qui s'appelait Qu'est-ce que sexe? Et en fait, je sais pas si tu vois, mais c'était un peu le pendant des monologues du vagin. Voilà, il balayait pas mal de sujets et moi j'étais très stressée parce que je savais bien ce qui allait se passer après.
Mmh.
Et lui, bah, il était très détendu et il arrêtait pas de me poser des questions en rebondissant sur ce qu'on voyait. Tu vois,
ah,
on parlait de
ah oui, c'est bien, ça vous a permis de faire
quoi,
un support.
C'est ça. Voilà, mais bon, il me disait, alors quoi, toi t'es circoncis ou pas? J'étais là, mais de toute façon tu vas le voir dans 30 minutes.
Ah,
enfin,
oui,
tu vois. Et
oui, c'est toi-même qui faisais monter la pression du coup.
Ben je faisais monter la pression tout seul, hein, je pense.
Ouais.
Enfin, je me mettais la pression,
oui,
moi-même.
C'est ça que je veux dire, c'est que toi-même,
voilà,
tu te mettais dans une situation où t'aurais pu ça aurait pu ne pas se passer. C'était ok aussi, tu vois.
Mmh. Okay. Ouais, mais bon, voilà, c'était quand même clair depuis le début. Et donc, ben voilà, ça s'est très bien passé.
Mmh.
Ça reste vraiment un super souvenir. Je vais préciser quand même, donc pour moi, faire l'amour ne requiert pas de pénétration, je sais bien que ce n'est pas le cas de tout le monde, donc du coup, je vais dire, il n'a pas été question de pénétration à ce moment-là.
Mm-hmm.
D'ailleurs, je me suis fait une réflexion a posteriori, j'estime que c'est lui ma première fois, et pas du tout la fille avec qui j'avais eu l'occasion d'essayer.
Alors que vous êtes masturbé.
Voilà.
D'accord.
Exactement. Donc voilà, il y a 2 poids 2 mesures aussi là-bas. J'ai pas bien expliqué pourquoi, mais bon, voilà.
Après, ça t'appartient et si il est ta première fois, aucun souci, quoi, tu vois. Mais je comprends ce que tu dis. Ok, donc vous allez explorer votre sexualité, vos corps et puis votre sexualité, votre sensualité au fur et à mesure. Donc depuis 12 ans, j'imagine, comme dans tous les couples, il y a des hauts, des bas, des moments de symbiose, des moments plus difficiles. Comment tu peux, même si c'est évidemment un exercice très compliqué de résumer une sexualité de 12 ans en quelques phrases, mais aujourd'hui, comment ça se passe et quelle est votre sexualité?
Ben, en fait, dès le départ, en fait, on a quand même eu une sexualité qui n'était pas débridée, simplement parce que on faisait tous les deux des études très chronophages, donc on n'avait pas beaucoup l'occasion de se voir. Et puis, avec le temps, quand on a pu se voir un peu plus, on avait envie de faire d'autres choses plutôt que le sexe, etc. Et donc, du coup, je veux dire, on parle souvent de la phase passionnelle au début d'une relation de couple. Notre phase passionnelle a été relativement maîtrisée, je vais dire. Mais donc ça se passait quand même très bien, je vais dire, à chaque fois qu'on avait l'occasion. Bon, je veux dire, c'était une fois par semaine, en gros, on faisait l'amour et c'était très bien. Mais assez rapidement, lui, il m'a dit qu'il ne ressentait plus l'excitation qu'il avait au début, ce qui me paraît normal.
Au bout de combien de temps, à peu près, tu te rappelles?
Ça devait être 2-3 ans, je pense, à peu près. Et c'est quelque chose qui m'a fait très peur parce que je ne ressentais pas du tout ça, en fait. Moi, j'étais toujours aussi excitée par son corps qu'au début. Instinctivement, étant donné, encore une fois, que comme c'était mon premier, je n'avais pas d'autres points de comparaison que moi-même, je m'attendais finalement à ce qu'il le ressente et qu'il ait envie de faire les mêmes choses que moi. Et donc, la différence de désir à ce niveau-là a été assez perturbante parce que je comprenais pas, tiens, comment est-ce que ça se fait que finalement
ça s'entend complètement
mais je me dis c'est pas très très grave et donc on continue. Mais alors, à partir de ce moment-là, il a tout doucement commencé à me repousser de temps à autre quand je lui demandais, tiens, j'ai envie de faire l'amour, est-ce qu'on ferait pas quelque chose?
Genre.
Et puis voilà. Voilà, c'est ça. Donc, le truc, en fait, c'est qu'avant cette période-là, c'était l'un qui allait vers l'autre, dans n'importe quel sens, mais je vais dire, en gros, à chaque fois que quelqu'un avait envie, on faisait l'amour et c'était très bien. Mais à partir de ce moment-là, il a commencé à avoir des moments qui sont tout à fait normaux, où il y en a un qui n'a pas envie de faire l'amour, et donc du coup, on ne le fait pas. Mais
ça t'a fait douter de toi, de ta libido, de tes appétits sexuels? Est-ce que tu t'es posé des questions sur toi?
Oui, mais en fait, je suis quelqu'un qui a toujours eu des problèmes de confiance en lui.
Tu sais d'où ça vient?
Non. Franchement, non. Je ne sais pas. Mais je veux dire, ça ne m'a pas surpris que j'ai commencé à douter de moi à ce moment-là, mais effectivement, je me disais, lui, il m'excite toujours, moi, je ne l'excite plus autant, donc c'est qu'il y a un problème chez moi. Donc, voilà. Et donc, avec le temps, il a commencé à me repousser de plus en plus souvent. Alors, c'était souvent très subtil. Par exemple, je veux dire, chez nous, quand l'un de nous a envie de faire l'amour, souvent, c'est on s'embrasse et puis on s'embrasse un peu plus longtemps que d'habitude et le baiser devient un peu plus profond. Et alors, on sait que,
c'est un appel du pied.
Ouvert,
un appel de la langue.
De la langue, mais oui, c'est ça, voilà. Donc, effectivement. Et à ce moment-là, si je commençais à l'embrasser un peu plus longtemps, alors je le sentais très très délicatement, mais qui se redressait, qui qu'il arrêtait le contact et qu'il me disait « Ah, oh, je suis fatiguée aujourd'hui » ou « j'ai super mal au dos depuis quelques jours ». Et en fait, je pense que c'était quelque chose qui n'était pas conscient. Mais à chaque fois que je faisais un signal qui pouvait lui laisser penser que finalement j'avais envie de faire l'amour, en retour, j'avais une justification qui lui permettait de me dire «
Qui était
voilà,
ni
j'ai
le
feu
chez toi, quoi. »
Et voilà, exactement.
C'est, tu lui en as voulu de ça ?
Oui. Après, oui et non, parce que voilà, je sais bien que je ne peux pas lui en vouloir parce que c'est comme ça, le désir, c'est comme ça. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie, on ne peut pas se forcer. Donc voilà, mais il n'empêche que bon, bah, je veux dire, ça commence à me frustrer aussi, quoi, puisque voilà, j'avais envie, au final je me faisais repousser de plus en plus souvent. Et c'était un point où finalement, bah, étant donné qu'on faisait l'amour de moins en moins souvent, moi j'avais de plus en plus envie, donc du coup je commençais à lui demander de plus en plus souvent et je me faisais refouler quasiment systématiquement.
Ouais, donc oui, et effectivement c'est un cercle vicieux au bout d'un moment, hein.
Exactement, exactement. Et à partir d'un moment, là, j'ai commencé vraiment à perdre confiance en moi. Et chaque refus devenait un peu plus douloureux. Du coup, ben voilà, j'ai commencé, moi, de mon côté, à être moins en demande. Simplement parce que j'avais peur de prendre un nom.
Un refus, ouais. Oui, et puis c'est comme fait, tout. Voilà. Enfin, le sexe s'appelle le sexe. Plus tu vas en faire, plus tu auras envie. Et effectivement, plus tu es un peu recalé dans ton intimité par l'être aimé, moins effectivement tu as envie. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est très subtil, c'est très compliqué, c'est très délicat, tout ça. Et c'est vrai que c'est le nom est aussi difficile à donner qu'à recevoir. Donc ouais, ça peut créer des tensions. Donc comment vous avez et comment toi tu as pu être plus en phase avec toi, et quelle solution, enfin si on peut parler de solution, mais quelle est l'ouverture qui t'a permis de gérer ça mieux, parce que ça fait 12 ans que vous êtes ensemble et tu parles de ce changement, enfin en tout cas de cette libido qui n'est pas en adéquation depuis on va dire le premier quart de votre histoire. Donc comment ça se fait que tu as réussi vous avez réussi à trouver un terrain d'entente ?
Donc en fait, ce que je faisais, ben bon, depuis mon adolescence, j'allais voir du porno, donc ben, j'ai continué à aller voir du porno. Et je vais dire, ben voilà, ça me posait pas vraiment de problème au départ, puisque ben, ça me permettait d'évacuer la pression que je ne pouvais pas évacuer autrement. Je vais dire, j'ai toujours été un grand consommateur de porno. Hein,
Alors, quand tu dis grand consommateur, c'est quoi en termes de quantité par semaine, par jour ?
C'est pratiquement tous les jours,
okay.
Je dirais. Et pour la quantité, là, ça dépend. Je veux dire, ça pouvait durer 5 minutes si vraiment j'avais pas le temps de faire autre chose. Sinon, ça peut durer plusieurs heures, quoi.
Ok.
Donc voilà.
Et donc ça a duré combien de temps ? Enfin, ça dure peut-être encore.
Ça, je n'ai pas perdu cette habitude là, mais
ce petit moment avec toi-même.
Exactement.
Et tu sais si ton mari se masturbe aussi sur du porno ou tout seul ?
Oui, ça on le sait bien que l'un et l'autre, voilà, chacun de notre côté, on va voir du porno.
Et là-dessus, tu n'as aucun problème, toi. Enfin, je veux dire, tu as bien fait de distinguo entre vos relations intimes et faire l'amour et ce besoin de se masturber qui est personnel, intime et qui ne regarde que soi.
Oui, absolument. Okay. Parce que je veux dire, moi aussi, je le ressens, surtout voilà, avec le temps où j'ai pu me rendre compte, effectivement, ben voilà, des fois, j'ai envie de faire l'amour et des fois, ben, j'ai envie d'un plaisir solitaire qui voilà est peut-être plus simple, moins fatigant aussi,
oui, et puis qui est avec soi-même,
je suis quelqu'un de fainéant, voilà. Exactement, et qui est avec soi-même, quoi, donc
okay.
Donc voilà,
je comprends. Et donc le porno fait partie de ta vie intégrante,
oui,
et au fil des années, comment ça se passe, comment ça se transforme?
Ben en fait, Après quelques années, j'ai commencé à m'ennuyer parce que je trouvais finalement que le porno c'était trop facile. Tu tapes un mot-clé dans un moteur de recherche et puis voilà,
Tu
t'as tout ce
tapes
que
quoi
tu
comme
veux, quoi.
mot-clé?
Oh, ça varie vraiment énormément. En fait, moi je fonctionne souvent par thème, donc c'est-à-dire il y a un thème qui m'intéresse et je vais regarder ça pendant plusieurs semaines, puis à un moment donné j'en ai marre et hop, je passe à autre chose.
Mais genre, il y a quoi comme
Et
thème?
voilà, au fil du temps, il y a eu le porno hétéro, que j'aimais bien quand même. Sinon, j'aime bien aussi tout ce qui est public. Puis je veux dire, c'est par là que j'ai commencé
Bien
aussi,
sûr.
donc ça me rappelle un peu
Oui, t'es basique.
mes débuts, quoi. Ouais, c'est ça. Sinon, tout ce qui est porno amateur, en fait, ce que je veux voir, c'est du réel.
Ok.
J'ai l'impression qu'on vit dans une société où le porno est accessible très facilement, le sexe est partout, mais en même temps, il y a une espèce de pudeur sociétale énorme qui fait que il y a vraiment une séparation entre le sexe qui doit absolument rester intime. Mais oui, mais que paradoxalement, il y a quand même une volonté de laisser le sexe dans la sphère vraiment très privée. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ah
En
ouais, je
fait, j'ai
comprends ce que
l'impression
tu
de
veux
me
dire.
perdre complètement dans ma tête.
Non, 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 mais je comprends. Ok, et donc toi, tu veux voir justement dans tes recherches et dans tes recherches pornographiques, toi, tu veux voir quelque chose qui semble réel.
C'est ça, voilà. Donc, c'est vrai que tous les enregistrements studio, etc., c'est pas le genre de truc qui m'intéresse, quoi.
Je comprends.
Ouais, c'est ça. Voilà. C'est tout ce qui est amateur, en fait, en général, c'est quelque chose
Qui
qui me plaît le
fonctionne bien.
plus.
Ok.
Oui,
Et donc ça, c'est, on va dire, la partie de porno.
oui.
Et comment vous continuez à vivre votre vie sexuelle aujourd'hui? Et toi, comment tu arrives à te satisfaire?
Alors, si tu veux bien, je vais parler d'autres choses avant,
D'accord, bien sûr.
toujours dans cette partie virtuelle. Donc, en fait, je disais que le porno, pour moi, je trouvais ça trop facile. Du coup, j'avais envie de challenge. Parce que, je veux dire, même, enfin voilà, la vie de couple, pour se mettre en couple, tu as une phase de séduction. Donc, il y a un certain challenge avant d'arriver à
Bien
quelque
sûr.
chose. Et finalement, le porno, c'est le seul truc où là, il n'y a aucun
Ah bah
challenge
c'est
avant d'y
complètement
arriver.
passif. Enfin, tu cliques, il n'y a
Exactement.
aucun, bien sûr.
Et donc, du coup, je me suis mis à la recherche de quelque chose. Et c'est là que j'ai trouvé des jeux sur Internet liés au porno. Donc, ça peut être des conneries, mais par exemple, tu vois, tu joues au démineur et à la fin, enfin, tu as une image porno derrière, tu vois. Et donc,
Ça
si
rappelle
t'arrives au
ton
bout,
petit
voilà.
cache-cache
Oui,
striptease, hein.
absolument.
Tout
Exactement, mais
part de là.
absolument. Tout part de là.
Tu es un joueur,
Effectivement.
Jérôme.
Exactement.
Ok.
Exactement, mais à tel point que finalement, assez rapidement, j'ai découvert le strip poker en ligne.
Ok, donc
Donc,
tu
oui.
joues à des jeux, on va dire, érotiques,
C'est ça.
sensuels.
Oui.
Est-ce que ça va jusqu'à sexuel?
Ben, disons que tout ça, évidemment, a été progressif. Hein.
Bien
Donc,
sûr. Oui,
je veux
c'est pas
dire,
du jour au
au
lendemain, bien
départ,
sûr.
ben, non, c'est ça. C'est au départ, tu joues contre l'ordinateur. Je veux dire, tu vois des photos, voilà, de n'importe qui. Et puis, ben, tu te dis, bon, il y a d'autres personnes, donc finalement, on jouerait bien, on peut parler en même temps, etc. Et puis, ben, les gens mettent des photos d'eux. Donc, bah, il faudrait au moins que tu fasses la même chose parce que sinon, il n'y a pas d'enjeu finalement. Parce que si tu gagnes, tu arrives à voir ce que tu veux voir, mais si tu perds, bah, tu as pris des photos qui viennent de n'importe où et donc y a rien à perdre non plus, tu vois. Et puis, bah, au fur et à mesure, finalement, c'est comme ça que ça évolue. Et puis, on se dit, bah, tiens, il y a la possibilité de se mettre en cam plutôt que d'utiliser des photos. Donc, pourquoi pas acheter une webcam? Et voilà, de toute manière, tout ça reste virtuel et à distance, donc pourquoi pas? Et puis, bah, effectivement, une fois que tu as fait ça, bon, il y a des fois où t'as peut-être envie de, c'est pas très élégant, mais de te vider et t'as pas le temps pour jouer ou pas l'envie. Et donc bah là, pourquoi pas faire simplement de la cam, mais sans jouer, quoi. Donc face à quelqu'un d'autre ou face à plein de gens. Ou...
Et donc quand tu fais ça, c'est vraiment des inconnus en face.
Oui.
Ok.
Oui.
Ok. Et donc, tu le fais dans la... avec la confidence et la confiance de ton mari ?
Non. Donc tout ça, ça reste vraiment dans mon... enfin, sur le côté, quoi. C'est un peu comme si j'avais développé une double vie virtuelle.
Mais il n'est pas au courant du tout.
Non, il n'est pas au courant du tout.
Et s'il écoute le podcast ?
Il sera au courant. Et voilà. Ça me pose pas particulièrement de problème. Enfin, je ne tiens pas à ce qu'il le sache, mais bon, s'il veut le savoir, il le saura.
Après,
quoi.
Vous avez 12 ans de vie commune, vous êtes mariés depuis 5 ans.
Oui.
Évidemment, comme tu l'as dit très bien, et je le rappelle, tout ça c'est progressif, c'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain. Ça non, s'explique non. aussi parce que c'est un engrenage, parce que tu y trouves ton compte, parce que c'est une forme de support masturbatoire pour toi aussi, puisque tu n'es pas satisfait dans ta vie sexuelle maritale, et que c'est une façon pour toi de aussi d'avoir une, on va dire, une soupape de décompression.
C'est ça. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait deux choses que je recherchais. Donc, effectivement, un support, la nouveauté, l'excitation, etc. Parce que c'est vrai que je me lasse vite. Donc, il faut quand même assez fréquemment de quoi renouveler. Et avec, bon, bah, parfois, la notion de challenge, comme je le disais, ça permet d'avoir une certaine anticipation et donc d'augmenter l'excitation. Donc, c'est très bien. Et puis aussi, je recherchais une certaine valorisation à partir du moment où j'ai commencé à utiliser des photos de moi.
Tout le monde. Enfin, on est dans une. Tu parlais d'une société hyper sexualisée, mais on est dans une société du hyper moi. C'est-à-dire, on est toujours à son avantage sur les réseaux sociaux. On essaie toujours de montrer la plus belle part de soi. Et c'est vrai que même dans la performance de la sexualité. Enfin, tu vois, les hommes comme les femmes aiment, tu vois, parler de leur super coup, de leur nombre d'amants, de maîtresses, etc. Enfin, on essaie toujours d'être un peu le meilleur. Donc, c'est tout à fait légitime de vouloir aussi, tu vois, avoir toi une réponse en face de ta performance, de ton physique, etc. Et puis pour toi, très protégé en plus parce que tu as l'écran et que tu as l'anonymat.
Absolument, tout à fait. Okay. Donc ça, c'est vraiment... évidemment, je n'ai jamais mis ma tête sur aucune photo.
J'imagine.
Ni quand je me filme, parce que les vidéos se retrouvent vite un peu partout sur Internet et ça devient incontrôlable.
Mais je comprends.
Effectivement. Donc voilà. Mais en tout cas, grâce à ça, je vais dire, j'ai découvert peut-être les deux choses... d'un point de vue fantasme qui m'attire le plus, c'est d'un côté l'exhibitionnisme et de l'autre le voyeurisme. Puisque, voilà, en fait, j'aimais vraiment bien les deux au final. Je veux dire, quand je jouais au street poker, j'étais très content de gagner, mais au final, si je perdais,
c'était pas très grave
non plus. Voilà. Donc, voilà.
Ok. Je comprends, mais en même temps, c'est aussi... tu t'es mis en couple très jeune, à 18-19 ans. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi toute cette... tout ce qu'en... Pendant la vingtaine, tu n'as pas eu le temps d'explorer. En plus, tu as fait des études, effectivement, très prenantes. Donc, peut-être qu'il y a eu aussi cette aspiration de temps et de développement de cette partie-là, en tout cas, de ta vie personnelle. Donc, bon, c'est une façon peut-être aussi de se rattraper, de se donner aussi... des challenges, comme tu dis, ou en tout cas des voies d'exploration. Aujourd'hui, on en est où dans votre histoire, dans votre sexualité ?
En fait, ce qui s'est passé, je vais dire, c'est que à partir de ce moment-là, bon, ça restait virtuel. Et au bout d'un moment, t'as quand même envie que ça devienne réel, quoi. Y a rien à faire. Donc, j'ai commencé à aller voir des sites de petites annonces où il y a des gens qui recherchent certaines rencontres et tout ça. Et où je me dis finalement, à partir du moment où t'es deux à te masturber l'un en face de l'autre face à une webcam, qu'est-ce que ça change si t'es au même endroit mais que tu te touches pas? Tu vois, donc
ah là là,
je veux dire, j'ai continué au final à un peu à repousser la limite de ce que je considérais comme moralement acceptable. J'étais quand même bien conscient que je commençais à mettre un pied sur la ligne. Hein. Faut quand même pas se mentir. Mais,
oui, t'es intelligent, donc tu sais très bien aussi voilà, que toi-même à chaque fois t'as repoussé un petit peu la limite.
Exactement. Exactement. Mais bon, voilà, ça, je veux dire, ça a continué jusqu'au moment où, bon, bah, t'es l'un à côté de l'autre. Si tu te touches, finalement, c'est pas très grave. Et puis là, tu as carrément marché sur la ligne. Donc,
et puis, une fois que tu y es sur cette ligne, hein, tant qu'à faire.
Ben, c'est ça. Mais donc là, je vais dire, à partir de ce moment-là, je me suis dit, maintenant, ça ne va pas. Il faut que les choses changent parce qu'au final, je me rends compte que j'ai deux vies sexuelles complètement différentes. Une dans l'intimité qui est de moins en moins fréquente et satisfaisante, et une autre qui est virtuelle, plus très virtuelle non plus, extra-conjugale, disons.
Mais qui prend de la place en plus, j'imagine.
Qui prend beaucoup de place, qui prend de plus en plus de place en fait au final. Et donc c'est là que je me dis, il faut changer les choses. Et notamment, à partir d'un moment, j'ai découvert un certain podcast, je ne sais pas si tu le connais, ça s'appelle On the Verge.
J'ai une petite idée, oui.
Et j'ai entendu, ben voilà, les témoignages de certaines personnes et tout ça.
T'en as quelques-uns en tête qui te reviennent ?
Écoute, non. Les premiers, c'était il y a un an.
Il y a plus d'un an maintenant, ouais.
Donc, je garde je garde toujours le sentiment, je me souviens plus des détails, mais je garde le sentiment de, voilà, d'hommes qui vivent vraiment des choses très différentes. Et je me suis dit, il serait peut-être temps d'arrêter de se prendre la tête et de se rendre compte que maintenant, ben voilà, j'ai 30 ans et je suis sexuellement frustrée depuis plusieurs années. Enfin, c'est quelque chose que je pensais ne jamais dire un jour.
Tu pensais
c'est plus possible.
Que ta situation avec ton mari était inexorable et que de toute façon, ça ne changerait pas, qu'il fallait faire avec ?
Oui, parce qu'à un moment donné, je lui ai quand même dit, écoute, le sexe, ça ne va pas, il faut qu'on change des trucs, etc. Et on a essayé de changer des choses. D'explorer certains fantasmes et tout ça, mais bon, mes fantasmes ne sont pas les siens, donc du coup, ça n'aboutit pas à quelque chose de satisfaisant pour tous les deux. Et puis, à partir du moment où on arrive à casser un peu cette routine très rapidement, en fait, on retombe dedans. À un moment donné, en fait, je vais dire, comme je te disais jusqu'à présent, c'est tout le temps moi qui allais vers lui pour lui demander. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression de pousser sur un interrupteur, en fait. Oui. Et mon désir s'est complètement arrêté. Mon désir de faire l'amour avec lui. Mon désir de lui, non, parce que quand je le vois, voilà, je le trouve toujours très beau.
Oui,
très...
c'est ce que tu disais, tu l'aimes profondément et il est l'homme de ta vie.
Exactement. Et je vais dire, quand lui venait vers moi pour faire l'amour, ben, ok, on le faisait, c'était très bien. Et voilà. Mais je vais dire, à partir d'un moment, la situation s'est inversée, en fait. Au lieu que ce soit moi qui devienne demandeur, c'est lui qui l'est devenu. Simplement parce qu'à ce moment-là, ben, j'avais une vie sexuelle, virtuelle à côté qui était vraiment satisfaisante comparée à ce que j'avais... au sein de mon couple, quoi, donc...
Couple, qui soit hétéro ou homo, c'est créer un foyer, avec ou sans enfant, peu importe, mais en tout cas, c'est créer une entité, un couple, une équipe, enfin, après, il y en a tous les synonymes qu'on veut, mais c'est vrai que la sexualité, surtout sur plus d'une décennie, c'est déjà une très belle prouesse, que c'est compliqué hein, de trouver le tempo, la disponibilité, l'envie, la séduction, enfin voilà, c'est très fragile et c'est vrai que comme tu le dis très bien, il y a l'envie de l'autre, point, et puis il y a l'envie de faire l'amour avec l'autre qui, voilà, est autre chose. Et dans les podcasts que tu as peut-être entendu enfin d'invités. Il y avait William qui parlait de ça à un moment donné, qui était aussi en couple avec un garçon et qui savait que donc ils étaient ensemble depuis peu à l'époque, depuis 2 ans je crois de mémoire, et ils savaient qu'ils allaient l'un et l'autre ouvrir leur couple à l'union libre à un moment donné, parce que eux, contrario à ton histoire personnelle, avaient déjà eu de l'expérience en couple avec d'autres hommes et savaient qu'à un moment donné, ce couple, enfin ce désir là, cette envie de l'autre exclusive allait s'atténuer, et que pour que la machine continue à s'alimenter, il fallait à un moment donné, en tout cas ça leur correspondait, s'ouvrir à ça. Et c'est vrai qu'il y avait eu plusieurs témoignages dans ce sens là qui étaient dans cette idée là.
Ben oui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles à un moment donné je me suis dit tiens, faudrait peut-être explorer autre chose, puisque la situation actuelle, ça ne fonctionne pas.
Ouais, te convient
et
pas.
Voilà, c'est ça. Et donc, bon, d'avoir essayé de rétablir les choses petit à petit, mais voir que finalement, on n'arrive pas à trouver une solution satisfaisante, un jour, j'ai fini par lui dire, écoute, je veux qu'on devienne un couple libre, parce que, à ce jour, c'est la seule solution que je vois qui puisse être satisfaisante pour moi. Alors là, j'étais très étonné en fait, parce qu'il m'a répondu oui immédiatement.
Wow.
Ce à quoi je ne m'attendais pas. Je pensais franchement qu'il me dirait oui après un temps de réflexion, parce que je sais que c'est un garçon très intelligent et qui réfléchit de manière très rationnelle et qui est capable de prendre les décisions même difficiles, mais parce que je veux dire rationnellement elles ont énormément de sens quoi. Donc c'était à ça que je m'attendais, mais il m'a dit j'ai très peur en te disant je te dis oui, mais j'ai très peur en te disant oui que finalement tu trouves quelqu'un d'autre et je te perde, mais je sais très bien que si je te dis non je te perds de toute manière. Et je pense qu'il avait absolument raison, parce que s'il m'avait dit non,
oui, à terme,
J'aurais quand même dû continuer en fait de mon côté pour ma santé mentale.
Oui, quoi, puis ça aurait pourri votre relation sur autre chose, enfin sur la frustration, sur la colère, sur tout ça.
Oui, ce qui est, enfin voilà, ce qui a été quand même difficile pour lui, je pense. J'imagine. Parce que au final, lui n'est absolument pas frustré.
Non,
parce que
je pense que lui,
sa libido fait que, lui il n'a. Il n'a pas envie très souvent, et la fréquence à laquelle on fait l'amour lui convient tout à fait. Ce qu'on fait lui convient tout à fait, c'est ça. Et c'est vrai que quand j'ai amené la solution du couple libre, en fait, je pensais que ce serait utile aux deux, parce que je me dis, si je suis frustré, il doit être frustré aussi.
Oui, tu pensais que lui aussi...
Comme je n'ai pas de point de comparaison, il devait forcément, voilà. Ouais. Mais en fait, il me dit non, qu'il est très bien comme il est.
Tu pensais que lui aussi avait besoin de se nourrir de l'extérieur pour votre couple?
Oui,
et
je
en fait,
le pensais.
Non.
Visiblement pas.
C'était quand, ça?
C'était l'été dernier.
D'accord, donc c'est assez récent, du coup.
C'est assez récent, oui.
Et alors, depuis, comment ça se passe?
Depuis, comment ça se passe?
Déjà, tu dois être très soulagée, toi.
Oui, ça
a
vraiment...
beaucoup de bien, oui.
Ah oui, c'était vital. Et franchement, ça m'a vraiment fait énormément de bien. Parce que au final, quand il m'a dit OK, je suis pas sorti pour coucher avec tout qui passait. C'était pas ça qui m'intéressait. Ce que je voulais en fait, c'était de savoir que je pouvais faire autre chose avec son accord,
sans le blesser, sans lui faire de mal s'il l'apprenait.
C'est ça, exactement.
Oui,
exactement.
C'est de l'amour. C'est toujours le fil conducteur de tout ce que tu fais jusqu'à maintenant. C'est de l'amour.
C'est ça. Oui, tout à fait. Maintenant, j'ai décidé de laisser une séparation bien nette entre ma vie sexuelle au sein de mon couple et en dehors. Et c'est pas tellement pour lui, parce que visiblement, lui, ça lui pose pas trop de problèmes. Je vais dire, il y a un jour où j'étais avec un garçon, parce que je savais bien que lui, il allait rentrer beaucoup plus tard à la maison. Donc du coup je me suis dit tiens voilà, je peux expérimenter des choses. J'étais avec un garçon, et puis après je me rends compte qu'il a essayé de me téléphoner, et en fait il était rentré à la maison beaucoup plus tôt, et Il t'a pas trouvé. Il était mort de stress parce qu'il ne me trouvait pas et il n'y avait rien dans mon agenda, il n'y avait rien du tout. Donc, comme je ne lui ai pas dit où j'étais, il a vite compris.
Il n'y avait pas beaucoup d'options, bien sûr. Ouais.
Non, c'est ça. Et visiblement, ça ne l'a pas dérangé. Il m'a dit, bah, juste écris dans ton agenda occupé, même tu ne mets rien d'autre. Mais comme ça, je sais que si tu ne te trouves pas à la maison, c'est qu'il y a une raison
bien particulière. Un homme pragmatique.
Exactement, exactement.
Ok.
Donc voilà, maintenant, moi, de mon côté, bah, c'est peut-être simplement parce que j'ai toujours fonctionné avec ces deux vies bien séparées que finalement, j'ai pas envie de commencer à les mélanger ou en tout cas qu'elles coexistent vraiment l'une à côté de l'autre. Je préfère maintenir cette séparation bien nette.
Tu es la même personne dans ces deux vies ? Tu es le même Jérôme ou pas ?
C'est une question très compliquée. Non, non. Non, je ne pense pas. Comment est-ce que je vais dire ? En fait, j'ai entendu très récemment, je me demande même si ce n'était pas le dernier épisode que tu as mis en ligne à propos de Théo.
Oui, c'était le dernier.
Qui faisait une séparation extrêmement nette entre sa vie sexuelle avec les garçons et avec les filles.
Exactement, oui.
En fait, j'ai fait exactement pareil avec mes deux vies sexuelles, si je puis dire. Mm-hmm. Et effectivement, je pense que je ne suis pas le même dans l'un et dans l'autre, parce que cette séparation est très nette dans mon esprit. Et c'est à tel point que, voilà, avant d'enregistrer le podcast, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit exercice, je vais faire un tableau un peu chronologique de voir un peu comment ma vie sexuelle s'est déroulée. Et en fait, j'arrive très bien à faire les deux colonnes, mais j'arrive pas à les faire correspondre l'une avec l'autre.
Je comprends.
Tu vois ce que je veux dire ? Simplement parce que effectivement, voilà, il y a cette séparation extrêmement nette. C'est aussi peut-être ce qui explique que, ben, à partir du moment où j'ai commencé à mettre franchement le pied sur la limite que je m'étais fixée, ça me dérangeait très fort de lui mentir. Mais en même temps, quand j'étais avec lui, j'arrivais pas vraiment à ressentir de culpabilité parce que...
Oui, c'était une autre chose.
C'est une autre vie, quoi. Et effectivement, sans doute, c'est une autre personne.
Sans faire un parallèle un peu grossier et facile, mais c'est un peu comme les prostituées qui vendent leur service, leur corps, et qui ont une vie maritale, somme toute, entre guillemets, normale et avec conjoint et enfant, ou comme une actrice ou un acteur porno qui, pareil, fait une performance sur un set, mais a une vie sexuelle qui peut être très tranquille et vanille, comme, comme beaucoup de couples à la maison. Donc c'est pareil, t'avais fait un distinguo entre ces deux moments et les deux ne se rencontrent pas. Je comprends très bien. Est-ce que tu aimerais que ton mari participe à cette vie-là ou elle t'appartient ?
Non, non, elle m'appartient et effectivement, je ne veux pas. C'était une des possibilités aussi qu'on s'était bien dit. Sûr. C'était pourquoi pas un jour faire un plan à trois en invitant quelqu'un au sein de notre couple. Et ni lui ni moi ne sommes prêts à ça, je pense. Un plan à trois, je veux très bien le faire, hein, mais avec deux mecs que je ne connais pas.
Et justement, tu as eu combien d'amants depuis cet été ?
Ben, tu vois, étant donné que je suis là, plus ou moins dans mon environnement...
maison.
Au sein de mon couple, j'ai vraiment du mal à compter. Ça doit faire... une petite dizaine, d'accord, peut-être, d'expériences diverses et variées.
Est-ce que c'est des expériences plus extrêmes, plus poussées, ou ça reste un sexe, entre guillemets, même si on n'aime pas mettre des pratiques dans des cases, mais un peu classique ?
Non, parce que j'aime bien découvrir de nouvelles choses, donc j'ai pu essayer les saunas gays, par exemple. Mm-hmm. Qui est quelque chose qui me tentait vraiment depuis très longtemps, ou bien étant donné que c'est surtout le côté exhibitionnisme et voyeurisme qui m'intéresse, tout ce qui est extérieur, lieu public, etc., c'est des choses qui me tente vraiment bien. Donc ben, voilà, c'est le genre de choses vers lesquelles je vais me tourner dans ces moments-ci. Mm-hmm. Enfin, dans ces moments-ci. Mm-hmm. Avant, évidemment, qu'on ne soit bloqué.
Oui, bien sûr.
Tout ça à la maison.
Tout ce qui est pandémie, coronavirus, voilà. Et tout ça.
Exactement. Exactement.
Ok. C'est très intéressant. Au-delà de la finalité de ta vie aujourd'hui, qui pour le moment, enfin ta vie sexuelle pour le moment, je trouve que le cheminement est très bien appréhendé, raconté. Et je trouve ça super que tu partages ça parce que. Dans la littérature, au cinéma, etc., il y a des ellipses de temps qui se font, tu vois, pour d'un point A à un point B. Mais là, ce qui est intéressant, c'est, j'espère que les auditeurs et auditrices vont bien le sentir, c'est toute la réflexion intellectuelle, émotionnelle, le pas à pas qui a été fait. Et ça, c'est très précieux parce que c'est vrai que c'est des choses, on prend pas tellement le temps d'en discuter finalement. Donc, donc je te remercie de partager cette histoire. Sur ta sexualité aujourd'hui, est-ce que tu as d'autres choses à raconter, à partager, ou est-ce que je peux te poser la question de « et demain, comment ça va se passer ?»
Tu peux tout à fait me poser la question de « et demain, comment ça va se
passer ?» Je te la pose, Jérôme.
Eh ben parfait. Écoute, ce que j'espère, c'est à partir du moment où on pourra sortir, ce sera de multiplier les expériences pour au final ne pas avoir de regrets. Mm-hmm. Parce que c'est sans doute ça que je veux, c'est ne pas avoir de regrets.
Il y a des choses que tu as très envie d'essayer. Tu avais parlé des saunagés que tu as déjà essayé, un peu d'exhibitionnisme sur des endroits dédiés. Mais il y a des particularités, des choses que tu as envie d'essayer.
Figure-toi que le strip poker, j'en ai fait plein en ligne, mais j'en ai jamais fait en vrai. Par exemple.
Ah là là. Voilà. Ok, donc, tu es le Patrick Bruel tout nu. Enfin, quoique.
C'est ça, exactement.
Le parallèle est un petit peu. Oui, étant donné que monsieur a eu des petits soucis sur le sujet, on va peut-être bien.
Exactement.
Ok.
Voilà. Donc, oui, après, j'espère que justement ces expériences me permettront de récupérer cette confiance en moi que j'ai perdue au fil du temps. Ça, je pense que c'est quand même sur la bonne voie.
Oui, c'est ça. Tu sens déjà la démarche de parler, déjà le fait de discuter de tout ça, c'est déjà effectivement que tu te rattrapes. Enfin, on rattrape. Tout est relatif, mais on sent que tu prends ça en main et le fait déjà de l'avoir constaté et de vouloir s'élever, c'est déjà un premier pas, effectivement.
Oui. Donc voilà, et donc j'espère trouver un certain apaisement, je vais dire, et que au final cet apaisement ait des répercussions sur ma vie sexuelle dans le couple pour pouvoir me réinventer les choses qu'on fait et retrouver une vie sexuelle beaucoup plus satisfaisante à ce niveau-là.
Est-ce que tu éloignes l'idée que peut-être que ta vie sexuelle avec ton mari va être ainsi pendant encore très longtemps, que tu auras cette double vie, même si elle n'est pas double puisqu'il est au courant, mais est-ce que tu as aussi réfléchi à ça?
En fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, si on décidait maintenant, on ne fait plus jamais l'amour, c'est très dommage, mais ça ne me poserait pas de problème. Simplement parce que effectivement j'ai eu tout un cheminement de pensée au fil de ces années où il y a quelques années de ça c'était complètement impensable quoi. Je pensais qu'on allait finir par devenir des colocataires et que donc finalement on ne s'aimerait plus, mais finalement je me rends compte que l'amour sans le sexe, ça a l'air tout à fait possible.
Le sexe sans amour aussi, tu le sais très bien.
Exactement. tout à fait. Et de savoir ça, au final, ça enlève une pression qui fait que on peut retrouver des envies plus plus simple, plus saine à deux, et ça se passe très bien au final, quoi.
Il y a quelque chose qui est très précieux dans les couples qui ont effectivement quelques années de vie, et là on parle d'une décennie à bien tasser, c'est la tendresse qui se construit avec le temps, avec l'érosion du désir parfois et de la libido. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a que les vieux, je mets des guillemets, les vieux couples qui puissent se targuer d'avoir ça entre eux. Et c'est très précieux. Et c'est vrai que, voilà, on change, on évolue. Puis avec ton mari, vous êtes rencontrés si jeunes qu'effectivement, vous n'étiez encore que des jeunes hommes, très jeunes hommes.
Oui.
Donc, effectivement, vous ne saviez pas les hommes que vous deviendriez. Et encore, tu n'as que 31 ans, même si ça y est, ça commence à être un homme établi, tout ça. Vous restez encore très jeunes l'un et l'autre. Donc, il y a encore tellement de choses qui peuvent se passer dans vos vies intimes. Et ça me permet de faire la transition d'un sujet qui était ton choix de ne pas aborder tout de suite, parce que tu avais envie surtout de parler de ta sexualité au sens premier du terme. Mais moi, tu m'as, quand on a échangé, il y a eu cette phrase que j'ai trouvée très jolie et en même temps un peu triste, je te le confesse. Tu m'as dit « Je suis convaincue d'être née dans le mauvais corps, j'en ai souffert en silence, mais ai fini par accepter mon corps masculin.
» Effectivement, c'est une question que je me suis beaucoup posée, parce que dès mon enfance, en fait, dès que je jouais avec des amis, etc., je voulais toujours incarner une fille. C'était vraiment systématique, à tel point que je me souviens bien que ça saoulait mes amis, parce que quand on jouait sur un terrain vague ou... je sais pas moi, on faisait comme si on était dans une entreprise de construction, bon, c'est un milieu qui est pas franchement féminin... Et j'étais là, si, je veux être une fille, trouvez-moi une fille. Bon, ben, on était obligé de m'inventer un rôle qui venait de nulle part, mais oui, c'était systématique. Oui, donc c'est vraiment, ça s'est vraiment marqué très rapidement. Quand je pouvais me déguiser, j'avais envie de me déguiser en fille systématiquement. Et... un jour, j'étais dans mon adolescence et il y avait un film des Monty Python qui passait à la télé, c'était La vie de Brian. Et à un moment donné, il y a une scène où tu as plusieurs personnages et tu as un des hommes qui dit « Je voudrais devenir une femme parce que je voudrais avoir des bébés. » Et en fait, à ce moment-là, ça a vraiment résonné à l'intérieur de moi. Tu vois un peu, enfin, ceux qui nous écoutent et qui ont joué à Zelda savent bien quand, la musique quand on ouvre les coffres au trésor.
J'ai joué à Zelda, je vois tout à fait la musique.
Voilà, exactement. Donc, c'est cette petite musique où le cœur des anges dans la cathédrale.
Tout à fait.
C'est vraiment, je me suis dit, mais en fait, c'est ça et c'est moi. En fait, ce que j'aurais voulu, c'était naître dans un corps de femme. Je sais que c'est ça que j'aurais voulu, et notamment pour pouvoir donner la vie. Oui, tout à fait. Et sachant ça, ben, en grandissant, je me suis dit, ben, est-ce que je suis transgenre finalement ou pas? Au final, je pense que non. Simplement parce que, effectivement, exactement comme tu l'as dit vis-à-vis de ce que je t'avais dit dans le mail, mon esprit, je sais très bien dans quel corps il aurait voulu naître. Maintenant, mon corps masculin, je ne l'aime pas. Mais j'ai fini par accepter de vivre dedans. Je sais bien que pour des personnes transgenres, ça peut vraiment être difficile. Il y a vraiment un rejet de leur corps s'il ne correspond pas à leur genre. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Et je me suis dit, même finalement, si je changeais de sexe, est-ce que ça m'apporterait du bien ? Étant donné que je vis avec un homme homosexuel...
qui aime les hommes.
Qui aime les hommes et qui n'est pas attiré par les femmes. Et que, en fait, ce ce qu'il me faudrait vraiment et que je ne pourrais pas avoir, c'est un utérus et des ovaires fonctionnels. Donc,
Oui, ça, voilà. Même en tant que femme, ça va être, enfin, dans un corps de femme, ça va être compliqué.
C'est extrêmement compliqué.
Bien sûr.
Donc, sachant ça, je me dis, ben, au final, est-ce que ce corps est vraiment un si gros problème? Et donc, j'ai fini par aboutir à la conclusion que finalement, je suis pas une femme transgenre, mais je suis pas un homme cis non plus. Je suis quelqu'un de non binaire. Je suis un peu entre l'homme et la femme ou aucun des deux, je sais pas très bien. Je dois bien avouer que c'est une question qui est toujours en train de tourner dans ma tête.
Et c'était pour ça que tu voulais vraiment en parler à la fin pour pas que ça dévie dans dans ta réflexion et dans ton histoire. Je comprends
tout
très bien.
Tout à fait. Et donc voilà, c'est toujours une question en cours et voilà. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de me mettre dans une case?
Ouais, ça c'est.
Étant donné que, en fait, le truc c'est que je pense qu'on vit dans une société. Enfin, même l'être humain est une espèce qui aime bien catégoriser. Et je veux dire, ça c'est quelque chose que j'ai intégré depuis tout petit. Et donc, naturellement, j'ai envie de trouver la case dans laquelle je rentre. Et d'un autre côté, je me dis, c'est bon, les cases, c'est chiant, ça sert à rien, quoi. Donc, voilà, tant que je suis en paix avec moi-même, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'essayer de mettre un nom dessus ?
Ce qui est intéressant, c'est pas tellement l'issue du chemin, mais c'est le chemin que tu fais. Et peut-être que c'est ça, finalement, qui va t'apporter des réponses à tes questions.
Des réponses à mes questions,
Et sur les questions des enfants, est-ce qu'avec ton compagnon, il est question peut-être d'adopter ou d'avoir des enfants ?
En fait, très rapidement, je veux dire, depuis que j'ai 16 ans, quelque chose comme ça, il était clair que je voulais des enfants. On en a très rapidement parlé, où je lui ai dit que je voulais absolument des enfants. Lui n'en voulait pas. Mais il me disait que bon, ben voilà, ça peut évoluer avec le temps. Et il y a quelques années de ça, on m'a diagnostiqué une maladie fort rare, mais incurable et qui est pas mortelle, mais qui est fort pénible. Et du coup, ça a changé beaucoup de choses en moi parce que je me suis rendu compte au final que j'avais du mal à prendre soin de mon propre corps et que du coup je ne me voyais pas prendre m'occuper du corps d'un autre et donc d'un enfant. Et au final, cette question d'avoir des enfants est totalement passée au second plan, et même pour le moment, je vais dire, ce serait plutôt non, d'autant que l'adoption, c'est quelque chose que je connais quand même bien parce qu'il y a des gens dans ma famille qui ont adopté et j'ai vu le parcours du combattant que c'était. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie de vivre parce que c'est vraiment des montagnes russes émotionnelles. Et quand t'es dans le bas, c'est vraiment très compliqué. Donc la solution, alors, c'est la gestation pour autrui. Mais ça, soit tu vas dans des pays où c'est pas cher, mais c'est parce que, je sais pas moi, c'est des femmes qui font partie d'un trafic ou ce genre de choses.
C'est pas fait dans des conditions optimales.
Hors de question. Ou alors c'est les États-Unis où c'est très encadré, etc. c'est 100 000 dollars, quoi.
C'est
donc,
ça. C'est ça.
Quand tu passes par une agence. Donc, je veux dire, ça aussi, c'est bête, mais ça. Ça intervient aussi dans la réflexion.
Bien sûr,
c'est,
bien sûr.
Est-ce qu'on arrive à sortir à un moment donné 100 000 dollars de notre poche pour avoir un enfant ?
Je comprends.
Donc voilà, bon. Nous verrons bien.
Quel est le mot de la fin, Jérôme ?
Alors, pour le mot de la fin, je voudrais dire écoutez-vous, trouvez votre propre voix et n'oubliez pas qu'on n'a qu'une vie.
Superbe. Merci infiniment.
Je t'en prie, merci à toi.
Merci à Jérôme pour sa sincérité et son témoignage. C'était un vrai plaisir d'échanger avec lui. Je vous remercie, vous, pour votre écoute, votre soutien, toujours nombreux. N'hésitez pas à aller mettre des petites étoiles et un avis sur Apple Podcast, que vous ayez une tablette, un ordinateur ou un smartphone, ça marche. Ça aide le podcast à grandir, mais les meilleurs ambassadeurs, c'est vous, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de On the Verge.